peut-être qu'on peut demander à Gilles Boulec, j'allais dire, le commentaire de l'ADESME sur, effectivement, cet article 69.
Je ne sais pas si, oui, mon micro marche. Oui, merci. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, effectivement, bon, en tant que professionnel, il nous appartient de traduire dans les faits la loi de santé. Il faut reconnaître effectivement un certain nombre d'avancées que vous avez évoquées l'un comme l'autre, notamment le fait que l'article 69 est nettement meilleur dans sa rédaction. Pour ceux qui se souviennent de la rédaction initiale de l'article 13, je pense que tous les professionnels et les représentants des familles et les usagers s'étaient unis pour avancer vers une meilleure rédaction. Donc je pense que c'est quelque chose de très satisfaisant. Bon, en même temps, d'abord, comme Thierry Kurt vient de le concrétiser, la mise en œuvre n'est pas terminée en termes de rédaction de décret. Donc le texte, dans son application, est encore inachevé. Bon, on peut s'inquiéter quand même aussi de la pérennité du dispositif législatif, hein, puisque bon, d'aucuns annoncent déjà une autre loi de santé. Donc je pense qu'en tant que professionnel, on doit avoir le souci que le travail sur les textes successifs ne prenne pas le pas sur le travail de terrain, pour lequel on est quand même en priorité payé, je dirais. Bon, c'est d'autant plus vrai en plus que le texte a quand même, en cours de route, laissé peut-être de côté une partie de ses ambitions, en particulier sur le premier recours. Bon, d'abord, entre le projet initial et le résultat définitif, on peut dire que le texte est devenu en quelque sorte obèse, puisque le nombre d'articles a été multiplié par 4. Et bien des commentateurs, notamment juristes, font remarquer que de ce fait, il est devenu quelque peu hétéroclite, hein, qu'on a un petit peu du mal à suivre la logique. Il faut se souvenir aussi que, à la faveur des évolutions, le service territorial de santé au public a disparu, hein, et a été remplacé par notamment les communautés professionnelles territoriales de santé dont vous avez parlé, docteur Haas. Le service territorial de santé au public était une dimension essentielle de l'équilibre du texte. Et il faut se souvenir que dans l'exposé des motifs, il était dit d'ailleurs que ce service était rien de moins que l'outil central de l'organisation des soins à l'échelle des territoires. Donc c'était un outil qui devait peser d'un poids absolument déterminant. Il y avait cet aspect-là. Et puis, il y avait par ailleurs les groupements hospitaliers de territoire sur le côté hospitalier. Dans le texte final, en fait, donc cet équilibre relatif entre le premier recours et la partie hospitalière a disparu. Et en fait, le centre de gravité du texte a un peu tendance à passer du côté de la partie hospitalière, hein, avec une attention plus portée au groupement hospitalier de territoire. Et peut-être une tentation, donc, dont il faut à tout prix qu'on se préserve, d'un hospitalo-centrisme rénové, c'est-à-dire qui consisterait à dire que le groupement hospitalier de territoire, c'est lui qui va être le pilote du projet territorial de santé, en particulier du projet territorial de santé mentale. Donc ça, je crois que ce sont des aspects auxquels il faut qu'on soit attentif en tant que professionnels hospitaliers. Et il faut qu'on y soit attentif en poursuivant de manière déterminée dans notre capacité d'innovation, je dirais, avec le soutien des textes ou hors soutien des textes et même en présence de lacunes dans les textes qui soutiennent nos activités. Je voulais insister sur le centrage nécessaire sur le premier recours. Donc, il me semble que pour nous, les professionnels hospitaliers de la santé mentale, réaffirmer que les modalités de prise en charge dans la cité sont déterminantes, ça me paraît absolument essentiel pour la réponse aux besoins de la population en psychiatrie et santé mentale. Et à ce titre-là, je vais faire peut-être un peu la passerelle avec la journée de demain, Il ne faut pas que le rôle de l'hospitalisation temps plein, et en particulier le recours aux soins sans consentement, soit l'arbre qui nous cache la forêt. Parce qu'on a, une espèce de ce que j'appellerais une Bastille régalienne à laquelle il va falloir quand même s'attaquer. C'est-à-dire, il me semble qu'il est essentiel qu'on se donne pour objectif de réduire le recours aux soins sans consentement. Dans les pratiques professionnelles, on a l'impression que les soins sans consentement, c'est considéré comme une donnée qu'on subit. Alors bon, ben, on la gère, etc., avec des situations souvent très difficiles. Mais ce n'est pas considéré dans la culture professionnelle comme une variable sur laquelle on est susceptible d'agir, notamment en analysant nos pratiques professionnelles dans le recours aux soins sans consentement. Alors sur les aspects législatifs, je reviens à la loi, c'est quand même assez frappant de voir que la loi du 5 juillet ne parle pas d'accès aux soins, à propos des soins sans consentement, et que symétriquement, la loi de modernisation du système de santé ne parle pas du tout de la liberté d'aller et venir. Donc, il me semble que le propos, c'est de garantir pour nos populations l'accès aux soins au bon moment, par le bon professionnel, mais avec, là j'utilise la terminologie de la Cour suprême des États-Unis, dont l'intervenant de demain matin parlera peut-être, la Cour suprême des États-Unis parle de solution la moins contraignante. Donc il me semble qu'on doit garantir l'accès aux soins dans le cadre de la solution la moins contraignante, ce qui permet de faire le lien, aujourd'hui défaillant, entre la loi du 5 juillet et la loi de modernisation du système de santé. Donc ça me paraît un point tout à fait essentiel. Le deuxième aspect, c'est que la psychiatrie sectorisée de services publics doit être affirmée clairement comme un acteur de premier recours spécialisé et doit être repérée comme telle parce que, notamment du côté des ARS, on voit que quand on parle de premier recours, on ne pense pas à la psychiatrie de services publics. Un exemple, dans ma région, l'ARS et la préfecture de région ont mis en place une commission de coordination de l'offre de proximité. On n'avait pas du tout pensé à faire venir la psychiatrie publique, qui fait quand même partie de cette offre de proximité. Autre aspect essentiel, donc l'articulation avec la médecine de ville et notamment la médecine générale est absolument fondamentale, puisque la santé mentale, semble-t-il, est deuxième motif de recours à la médecine de ville. On aura l'occasion cet après-midi, je salue le docteur Hainaut qui est dans la salle, de reparler de cette articulation entre la psychiatrie de service public et la médecine de ville. Et je pense qu'effectivement, les modes d'exercice collectifs sont un point d'appui pour parer à une difficulté qui est, on a du mal, nous les hospitaliers, quand on veut travailler avec la médecine de ville, à identifier les interlocuteurs. Notamment dans des bassins urbanisés, on ne sait pas trop à qui s'adresser. Alors qu'il est essentiel qu'on ait une sollicitation. Et d'ailleurs, dans le projet dont on voit, dans le centre de santé dont on va vous parler cet après-midi, ce qui est essentiel, c'est que l'hôpital a été sollicité. Vous parliez du service d'infectiologie où l'hôpital était venu planter son truc sans rien demander à personne. Mais effectivement, je pense que pour que ça marche, il faut identifier des interlocuteurs et que les interlocuteurs soient en demande par rapport à l'implication de l'hôpital. Le centrage sur le premier recours, de mon point de vue, nous permettra d'être plus attentifs aux demandes des patients et des aidants, et en particulier pour les demandes pressantes qui sont relatives à la prise en charge de la crise à domicile, avec toute la problématique de l'allée vert et tout ce qui concerne l'organisation des urgences psychiatriques. L'organisation des urgences psychiatriques étant d'ailleurs sans doute quelque chose à reprendre du point de vue de la réglementation. Sans entrer trop dans le détail, le statut par exemple des centres d'accueil permanents avec des lits de psychiatrie dans les services d'urgence générale, très problématique sur le plan financier, sur le plan juridique, etc. Et le dernier point, et j'en aurai terminé, dans cet environnement, l'outil fourni par la communauté psychiatrique de territoire doit être utilisé avec discernement, justement en évitant tout hospitalocentrisme, Parce qu'on voit certaines analyses ou certains propos, on a l'impression que la CPT, c'est un outil purement hospitalier, voire purement psychiatre hospitalier, alors qu'en fait, le rôle de la CPT, c'est de fédérer les acteurs, hein, c'est de faire du lien. Hein. Donc, c'est pas du tout un outil purement hospitalier, ni un substitut au groupement hospitalier de territoire spécialisé en psychiatrie. Voilà ce que je peux vous dire en réponse à votre question.
Est-ce que vous souhaitez réagir, M. Kurt ?
Oui, tout à fait. Nous avions en tête cette crainte hein, sur le dernier point, hein, que la CPT soit une instrumentalisation un peu du contrat territorial de santé mentale, du projet territorial de santé mentale pour le bénéfice d'un hospitalocentrisme que l'on souhaite aujourd'hui dépasser. Et c'est pour cette raison hein, que dans le décret qui vient de paraître, hein, nous avons ouvert. Donc en prolongation de la loi, hein, je dirais, puisque la loi prévoyait les établissements membres comme étant les seuls établissements du service public hospitalier. Et nous avons ouvert dans le décret la communauté psychiatrique de territoire à l'ensemble des signataires du contrat territorial de santé mentale. Et là, on n'est plus dans l'hospitalocentrisme, puisque tous les signataires peuvent être membres de la communauté psychiatrique de territoire. Donc nous avons bien pris en compte cette inquiétude dans l'écriture du décret. Mais nous étions un peu verrouillés par le texte de loi, puisque le décret n'est qu'une déclinaison de la loi et ne peut pas être contraire aux dispositions législatives.
Oui, tout à fait. Et sur la réduction de l'ambition quant au premier recours ?
Je ne la vois pas. Je ne la vois pas dans les textes, en tout cas. Ce qui est constaté sur le terrain, donc c'est une émanation du terrain, donc c'est une réalité qui est perçue, en tout cas dans les textes. Hein, nous veillons à mettre en avant systématiquement le premier recours, les professionnels libéraux, les psychologues, les infirmières, le médecin généraliste. Nous veillons à associer toutes les composantes, et celle-ci est fondamentale, à cette organisation territoriale. Et il faut dès lors organiser également le soutien, hein, comme l'a dit Pierre de Haas tout à l'heure, le soutien de la psychiatrie à ces acteurs de premier recours. Et ça, c'est fondamental. Hein, on le voit dans un certain nombre de prises en charge. Le médecin généraliste s'engage à condition qu'il est derrière le relais, qu'il est derrière l'assurance que le patient pourra être repris en cas d'aggravation de la situation, de crise, d'urgence, et que le parcours soit organisé, qu'il n'emporte pas la totale responsabilité de la prise en charge, dont cette responsabilité étant considérable.
Monsieur Dehas, est-ce que vous souhaitez rajouter un commentaire, vous, à ce qui a été présenté ?
Bon, c'était très bien. Quoi. Je pense aussi que on a besoin de lois, Dieu merci. Et heureusement qu'on en a. Mais je crois qu'aussi, il faut un peu de bon sens. Quoi. Et que dans le parcours des patients, effectivement, on dispute hospitalocentrisme, soins primaires, virage ambulatoire. Je crois que si on revenait vraiment à quelque chose qui serait patient-centrisme, ce serait peut-être pas trop mal. Mais si on est effectivement sur un secteur de patient-centrisme, il faut reprendre du bon sens. Il faut se causer, il faut se discuter. Quoi. Je pense que les équipes, les territoires où ça va gagner, c'est les territoires où les gens se remettent à parler. Il y a 30 ans, les gens des soins primaires, ils allaient très régulièrement à l'hôpital. Parce qu'ils étaient tellement nombreux. Moi, je me suis installé dans les amphis post-68 ans. On avait tellement de temps qu'on allait à l'hôpital. On allait voir les patients. Puis on avait tous les anciens copains qui étaient devenus internes, chefs de clinique, etc. Et puis, petit à petit, le boulot a augmenté. On n'y va plus. Et je pense que dans les hôpitaux psychiatriques, vous ne voyez quasiment plus d'équipes de soins primaires qui viennent vous voir. Et comme les gens dans les hôpitaux n'auraient même pas l'idée, comme je disais tout à l'heure, de faire la tournée des unités de soins primaires, leur unité de production, il n'y a plus ce lien qui existe entre les professionnels de santé. Et je pense que c'est là qu'il y a un élément de bon sens. Il faut qu'on refasse des soirées, des popos, des popotes, des je sais pas quoi, moi, des fondus. Enfin, il faut créer un lieu où les gens peuvent se rencontrer, Il y a des secteurs où ça commence à se faire. On se fait un bistrot une fois par mois où les gens viennent, papotent, discutent, repartent en échangeant leur mobile et apprennent à se connaître, ne sont plus dans la crainte les uns des autres, ne sont pas surtout sur des représentations. Ils sont vraiment nuls en ville ou à l'hôpital, ils passent leur temps à boire le café dans des réunions qui ne servent à rien. Et on sort des représentations, on commence à s'échanger et je pense que les patients vont tirer un bénéfice de ça. Mais je crois que ça, je ne pense pas qu'on puisse l'écrire dans la loi. Peut-être, quoique, il faudrait qu'on y réfléchisse. Mais je pense que de retrouver des liens qui donnent du sens en fait, à ce qu'on fait dans une véritable continuité autour du patient, ce n'est pas très compliqué. Il faut juste de la bonne volonté.
Enfin, faut surtout une grande tournée de Pierre Dehaas en France pour aller convaincre d'une part les généralistes et d'autre part les gens de psychiatrie.
Simplement très vite, un petit commentaire. Je pense qu'il serait utile qu'on puisse communiquer peut-être à travers les ARS sur ces outils que sont les équipes de soins primaires et les communautés professionnelles territoriales de santé, parce que je ne suis pas sûr que les médecins de ville aient bien perçu l'intérêt de cet outil. Il faut aussi sensibiliser les hospitaliers, parce que, comme on sait, les hospitaliers, ils lisent la partie de la loi qui intéresse les hôpitaux, et puis le reste, ils ne le connaissent pas. Hein. Donc il y a vraiment, je pense, un travail d'appropriation de ces outils qui sont intéressants.
Oui, et la convivialité au bistrot sera compliquée à faire apparaître dans un article du décret, sauf à trouver une formule très édulcorée.
Sans alcool. Alors, deux questions, et c'est tout parce que après on est obligé d'enchaîner. Il y a des gens qui ont des obligations parmi ceux qui interviennent au cours de la matinée en termes de timing. Alors, deux ou trois questions, mais très courtes, s'il vous plaît. Quatre, visiblement. Oui. Très courtes.
Oui. Allez, monsieur. À nouveau, Luc Thiel, directeur Rémi Claudel en Charente. Sans revenir sur la question du CMP, pour ne pas faire preuve d'esprit systématique, mais je souhaite et même j'affirme que les équipes de secteur doivent faire partie et font partie aujourd'hui et doivent continuer à faire partie du dispositif de premier recours. Et qu'elles doivent entretenir de nombreux liens avec la médecine de ville, quand je dis les médecines de ville au sens large, les médecins et d'autres, et bien entendu les services sociaux. Alors, je ne reviens pas sur la question des CMP installés dans les maisons de santé, mais j'y crois fort. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que les équipes de secteur, aujourd'hui, et ça continuera demain, voient toutes sortes de gens que personne ne voit jamais. On reçoit des gens qui disent « Vous êtes les seules personnes à qui nous parlons ». Il faut quand même en être conscient. Et je pense qu'il faut aussi, dans le cadre de la loi, bien évidemment, donner, quitte à, bien sûr, évaluer ensuite de grandes marges de latitude aux acteurs de terrain. Parce qu'on est dans un pays très fluide, très labile, et je pense que le régalien doit un peu mollir pour survivre.
Merci pour votre témoignage. Monsieur.
Alors, Georges Racotouvao, je suis directeur des centres hospitaliers de Lavor et de Grolier, donc psychiatrie dans le Tarn. Je voudrais remercier particulièrement Gilles Moulet, qui, je pense, a très bien posé le problème, mais la façon dont vous y avez répondu, et la réponse que je viens d'entendre là, confirme ma crainte, que je voudrais vous exprimer de façon très concise. Ne sommes-nous pas, tout simplement, à l'occasion de cette loi et de peut-être cet oubli de la bonne manière d'accrocher la santé mentale, en train de rater cet élargissement à la santé mentale qui est quand même attendu depuis une quinzaine d'années, 8 ans au minimum, et qui est en harmonie avec les objectifs mondiaux en termes de santé. Vous cherchez santé mentale au niveau mondial, vous trouvez des informations qui vous disent clairement qu'il faut partir du terrain. Regardez quelle est la totalité et les formes des besoins bien plus larges que la psychiatrie. Alors, je suis tout à fait ravi d'entendre que les collègues des équipes de secteur souhaitent, bien entendu, ne pas être oubliés dans la démarche, mais ça me paraît une grande évidence, sauf que ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas en repartant que des centres hospitaliers et que des équipes de secteur qu'on passera à la santé mentale. Je trouve un petit peu dommage que par rapport à 2 ans en arrière, Mme Marisol Touraine avait été très claire sur l'intérêt de cet élargissement à la santé mentale, sur l'intérêt d'outils comme les conseils locaux de santé mentale, qui devaient être inscrits dans la loi, et qu'on retrouve au travers d'une énumération, dans un passage certes important, mais dans des passages des décrets. Est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de rater le concept ? Autrement dit, de rester dans l'hospitalocentrisme, qui en psychiatrie était bien sûr basé sur le secteur depuis 50 ans. Mais est-ce qu'on n'est pas tout simplement en train de rater ça ? Et ça rejoint l'autre aspect pour notre deuxième journée, et je pense que ces deux journées de l'ADES me sont particulièrement bien structurées en ayant vu ces deux piliers, la question des libertés et la question des soins contraints. C'est vrai que les soins contraints sont très compliqués et on a vu à quel point même pour faire une modification, il faut encore 2 ans entre 2011 et 2013, mais il a fallu pratiquement 8 ans pour les construire. Je rappelle que si on a fait cette réforme, c'est parce que notre société était inquiète de voir que les soins contraints augmentaient. Aujourd'hui, avec le texte de 2013, ça y est, ils sont partis.
On y reviendra demain, si vous le voulez bien.
Donc, je crois que ces deux questions sont liées. Sur le terrain, concrètement, jusqu'au domicile, la notion de parcours a un sens. Et il faut qu'on puisse revenir à cette logique de santé mentale.
Monsieur Kurt a noté. Madame.
Docteur Sylvie Perron, présidente de CME de Poitiers. Et je représente la conférence des présidents de CME aujourd'hui. Je voulais m'exprimer justement sur la communauté psychiatrique de territoire et le rôle qu'on y voit, nous. C'est vraiment une volonté d'aller plus loin par rapport, effectivement, à l'organisation et à être vraiment, justement, sur le terrain, à l'aller vers ce que l'on souhaite et ce que l'on veut mettre en œuvre. Donc c'est vrai que l'hospitalocentrisme, c'est vraiment pas ce que l'on souhaite donner comme sens à ces communautés psychiatriques de territoire. Et j'espère bien que l'on ne va pas rater justement cette opportunité à travers ce texte qui nous paraît tout à fait fondamental. Et c'est vraiment ce qu'on attendait par rapport à tout ce qui est avec les partenaires médico-sociaux et sociaux. Et je pense que le diagnostic de territoire qu'il faudra faire par territoire, il va falloir vraiment aussi voir ce qui manque sur chaque territoire. Parce que la psychiatrie, pour pouvoir évoluer vers le dehors, il faut aussi qu'il y ait des ressources médico-sociales et sociales pour pouvoir le faire. C'est très lié, tout ça. Donc, et il faut aussi qu'on puisse soutenir par certains moments nos partenaires. C'est-à-dire que je pense que c'est aussi à la psychiatrie de dire ben ça on le fait, ça on peut le faire, mais ça on ne peut pas le faire, ça ne dépend pas de nous. Donc ça c'est vraiment des explications qu'il faut qu'on puisse donner en tant que professionnel de santé, mais on n'est pas du tout, on le sait très bien aujourd'hui, et on ne veut pas tout faire en psychiatrie, et notamment encore plus en santé mentale, qui là concerne un champ qui est important, mais qui regarde effectivement d'autres acteurs. Donc nous, on y voit vraiment un point très important de cet article 69.
Merci, madame. Dernier témoignage.
Oui. Bonjour, Corinne Williams-Sossler, le directeur du CHS Vendée, Georges Mazurel. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet dans la revue hospitalière de France, dont je ferai très court. On salue bien sûr tout l'intérêt de l'article 69, tant sur son contenu que sur l'oxygène qu'il procure aux équipes et aux personnes qui veulent bien réfléchir à l'échelle d'un territoire. Je pense qu'il y en a beaucoup. Donc ça, c'est bien, mais par contre, ne faisons pas une usine à gaz. Ne faisons pas une nouvelle usine à gaz. Quand j'entends effectivement tous les prérequis qui ont été alignés tout à l'heure, c'est, je crois, oublier que nous avons des acteurs métiers qui sont au fait également des besoins et des insuffisances que nous avons à pallier. Et c'est également nier et négliger tout le travail des partenaires. Et les partenaires produisent les schémas départementaux, les plans locaux, le travail de la CPM, etc. Je pourrais faire une liste très longue, mais bien sûr, je veux raccourcir mon propos. Donc nous avons déjà de la matière, donc de grâce, laissez-nous travailler. Et laissez-nous travailler doublement, que ma thèse et ma conviction profonde, c'est de penser qu'on aurait dû commencer par le projet territorial de santé mentale, avant de vouloir faire un volet santé mentale au niveau de la GHT. Nous l'avons dit tout à l'heure, en GHT, c'est essentiellement 15 à 20% de notre patientèle qui est concernée. Et en fait, l'essentiel, elle est dans la cité. Donc de commencer par le général pour servir le particulier aurait été plus pertinent. Peu importe, les choses ne sont pas prises dans ce sens-là, mais ne renvoyons pas aux calendes grecques un exercice qu'il faudrait mener, un exercice, je le mets entre guillemets, qu'il faudrait mener parallèlement à la production du projet territorial, du projet médical partagé de la GHT, si on veut être pertinent. Et encore une fois, je pense que, comme c'est un texte de loi qui n'a pas échappé à un certain nombre d'élus locaux et de partenaires de la médecine de ville, allons-y, Et je dis aux uns et aux autres, mais venant de Vendée, ça fera sourire, n'ayez pas peur, vous avez forcément tous les moyens de mobiliser à l'échelle de vos territoires des espaces de réflexion. Les communautés psychiatriques de territoire, elles peuvent avoir un intérêt d'être préfigurées, parce que dans les conseils territoriaux de santé, il y a un collège de prévu, et il ne faut pas rater ce rendez-vous-là. Mais véritablement, une communauté psychiatrique de territoire, ça ne se décrète pas. Ça s'organise après, quand on, effectivement, autour d'un projet territorial, chacun y a trouvé du sens et effectivement des réflexions et des actions partagées. Voilà ce que je voulais vous dire.
Merci, madame.
C'est là-dessus que nous démarrons sur la Vendée.
Très bien, c'est positif. Monsieur Kurt, vous aurez fait moisson d'opinions. Éventuellement divergent. Merci en tout cas de votre participation. Merci à Gilles Moulec et merci à Pierre Dehasse. Je vous propose de les applaudir pour que nous puissions enchaîner avec la suite des séquences.